Elle a toujours cette boule au réveil le lendemain matin. Cette boule qui obstrue sa gorge. Elle met quelques secondes à se remémorer l'épisode de la veille et à comprendre pourquoi elle se sent si nauséeuse. Quand elle ouvre les yeux, elle comprend qu'Émile n'a pas dormi ici. La couverture est restée parfaitement lisse de son côté. L'oreiller ne porte aucune trace de tête. Mais le plus troublant reste le manteau et l'écharpe d'Émile qui ont disparu du petit crochet derrière la porte. Elle sent son cœur qui s'emballe. Bon sang, pourquoi n'a-t-elle pas caché les clés du camping-car? Elle se lève avec des mouvements mal assurés. Le sol est glacial. Tout tangue autour d'elle. Elle retient avec difficulté un haut-le-cœur. Elle a du mal à réaliser que cela s'est produit, qu'elle a failli à sa mission, lamentablement. Elle avait promis de faire en sorte qu'il ne rentre pas chez lui. Mais la veille, elle a préféré fuir et se rouler en boule dans son lit, le cœur battant, surveillant l'oreille aux aguets, les bruits de pas dans l'annexe. Elle aurait dû insister, essayer de le raisonner. Mais elle n'a même pas essayé. Elle était trop soulagée de quitter le chantier. À vrai dire, elle a honte de se l'avouer, mais elle a souhaité qu'il parte, qu'il disparaisse. Elle n'a pas aimé l'Émile qui se trouvait en face d'elle hier soir. Il lui a fait peur. Il avait l'air terriblement en colère. Il lui a crié des choses qui ne lui étaient pas adressées, qui étaient sans doute adressées à une autre. Elle se cramponne à la poignée de la porte, s'efforce de l'ouvrir en ne perdant pas l'équilibre. Elle se retrouve nez à nez avec Albin qui s'apprêtait à frapper.
« Oh, t'es là ?»
Il a l'air de ne pas trop comprendre ce qui se passe, pourquoi elle est là, si blanche dans son plaid, encore en pyjama.
« Hippolyte pensait que t'avais amené Émile chez le médecin. »
Quoi ?
Albin la détaille encore, inquiet. Elle doit être sacrément pâle.
À cause de sa chute hier, sur le chantier.
Il scrute ses expressions. Elle secoue la tête.
Il n'a pas chuté.
Mais Albin l'interrompt.
Le camping-car n'est plus là. Hippolyte pensait que tu l'avais conduit quelque part ?
Elle secoue encore la tête, incapable de répondre.
Tu sais où il est ?
Non.
Il est parti. Il ne l'a pas reconnue la veille, pas tout à fait. Il était persuadé qu'elle était une sale menteuse. Il avait du mal à se situer dans le temps. Il se souvenait d'Éous et de Myrtille, mais plus de Bage ni de Gruissant. Elle aurait dû lui montrer son carnet, le forcer à en lire des passages. Au lieu de ça, elle est allée se cacher sous sa couverture. Et lui est rentré retrouver sa famille. Il va se retrouver en centre d'essais cliniques. Elle a foiré.
« Il est peut-être allé faire une course ?»
suggère Albin qui veut se montrer prévenant en la voyant si pâle. Il lui désigne la petite cuisine.
« Je t'ai laissé du café, je serai sur le chantier. Rejoins-moi quand tu seras prête. Je pense qu'il va revenir dans la matinée, t'en fais pas. »
Elle ne sait plus vraiment ce qu'elle est censée faire. Elle est déboussolée et totalement perdue ici dans ce domaine sans Émile. La culpabilité qu'elle a ressentie ce matin au lever à l'idée de l'avoir laissé partir, se transforme petit à petit en détresse et en colère. Comment a-t-il pu faire ça? Comment a-t-il pu l'abandonner ici, au milieu des montagnes? Une petite voix lui répond « Mais tu n'es rien. Il ne te reconnaît même pas. » Et elle s'efforce d'étouffer tout cela, de songer qu'Albin a raison, qu'il est allé faire une course, qu'il va rentrer. Elle rejoint le chantier car elle ne voit pas ce qu'elle peut faire d'autre.
« On fait quoi aujourd'hui ?»«
On va démarrer la pose des fenêtres. »
Albin lui parle encore de son expérience de menuisier. Sans cela, il lui serait incapable de poser les fenêtres d'Hippolyte. Mais Joanne remonte son écharpe sur son visage et elle tente de se plonger ailleurs, à une autre époque, dans une autre maison, à un moment où elle était plus légère et innocente. Elle ne veut pas penser à la fuite d'Émile. Elle préfère se retrouver à Saint-Suliac, dans la maisonnette en pierre. Quelque part, dans les limbes des souvenirs de Joanne, Léon toque à la porte de la salle de bain avec impatience.
« Tout va bien là-dedans ? Jo ?»
Elle est debout au milieu de la baignoire et elle contemple la traînée de sang à ses pieds.
« Oui ?»«
Jo ?»«
Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais encore là ?» Tu devais pas aller dîner chez tes parents ?
Elle fait couler un mince filet d'eau dans la douche pour faire disparaître ce sang. Elle ravale sa déception en silence. Les règles, ça signifie que le bébé n'est pas encore en route.
Si, j'allais partir. Je voulais juste t'embrasser avant d'y aller.
Bon.
Elle coupe l'eau de la douche et attrape une serviette.
J'arrive, je me sèche.
Elle s'enroule dans la serviette en grelottant. Dehors, il fait déjà nuit noire. Le mois de novembre est bien installé. Elle n'a pas vu filer l'été. Le mois d'août a pris fin en même temps que les travaux. La véranda est enfin terminée. Ils se sont occupés de la meubler et de la décorer. Puis la rentrée des classes est arrivée. Léon a relancé cette idée de bébé. En réalité, ils y pensaient tous les deux, à cause de la véranda qui était terminée. Dans leur esprit, ça n'avait jamais été une véranda. Depuis que Léon en avait soulevé l'idée, cette véranda était devenue la chambre pour le bébé.
C'est bon ?
J'arrive !
Elle s'essuie les pieds en vitesse, enfile son pyjama et se dirige vers la porte de la salle de bain qu'elle ouvre sur un Léon inquiet.
Ça va ?
Oui, je te l'ai déjà dit.
T'as une drôle de tête ?
Pas du tout. Je meurs de froid, c'est tout.
Léon referme la porte derrière lui et elle retourne auprès du miroir pour continuer à se sécher.
Joseph a allumé un feu. Il fera meilleur d'ici un quart d'heure.
Il continue de la regarder étrangement, mais elle l'ignore. Elle essore ses cheveux d'un mouvement énergique. Elle ne veut pas lui dire que ses règles viennent d'arriver. Pas maintenant. La déception est encore trop présente. Elle sait que c'est idiot. Ça fait à peine plus de 2 mois qu'ils essaient.
Tu m'embrasses ? Je vais devoir partir.
Elle abandonne la friction de ses cheveux et se tourne vers lui pour l'embrasser.
Je serai pas long.
Elle a cette même sensation amère à chaque fois qu'il la laisse pour aller dîner chez ses parents. Cette impression qu'il leur donne raison en la laissant à part. Elle est restée la petite bâtarde, la fille de la putain. Et pourtant, c'est bien avec elle qu'il veut faire un enfant. Elle essaie de chasser ses pensées de son esprit. Elle déteste avoir ce genre d'idée en tête, surtout sur Léon.
Tu dormiras peut-être quand je rentrerai.
Peut-être.
Alors bonne nuit.
Il l'embrasse de nouveau, mais elle a toujours cette lourdeur dans la poitrine. À cause des règles ou à cause de ce dîner, elle ne sait pas trop.
Jo, ça va ?
Elle retrouve Joseph dans le salon. Il est à table. Il l'attend. Le couvert est mis et un potage bien chaud fume devant lui.
Oui, ça va.
Il l'observe longuement pendant qu'elle s'assied en face de lui. Puis il se racle la gorge.
Léon n'est pas un mauvais gars, tu sais.
Il fait référence à son absence ce soir, comme tous les lundis soirs.
Je sais.
Il manque cruellement de courage, c'est tout.
Il lui prend son assiette et lui sert une grande louche de potage.
C'est pas ça, papa.
C'est pas ça qui te donne l'air si triste ?
Non.
Joseph repose sa propre assiette de soupe devant lui et se penche en avant pour lui montrer qu'il l'écoute.
Alors explique-moi si tu le veux.
Léon et moi, on...
Elle a du mal à poursuivre.
Vous voulez avoir un enfant ?
Demande doucement Joseph. Elle reste béate devant la clairvoyance de son père.
Oui, oui, c'est ça.
Joseph reste impassible, comme s'il s'attendait à cette nouvelle depuis des mois.
Tu ne sais pas comment m'annoncer que vous allez déménager ?
Demande-t-il avec la même douceur dans la voix. Elle se récrie.
Non. Non, on veut rester ici. On avait prévu de transformer la véranda en chambre de bébé.
Le visage de Joseph s'illumine soudain.
Johan,
murmure-t-il.
Quoi, papa ?
Tu as grandi si vite.
Elle sourit en baissant les yeux dans son assiette.
Est-ce que tu portes déjà cet enfant en toi ?
Elle relève la tête doucement vers Joseph qui la regarde avec une infinie tendresse.
Non, papa, pas encore. Je pensais que ça arriverait vite, plus vite que ça. C'est pour ça que je me sens un peu vide ce soir.
Le regard de Joseph est si doux qu'il lui donne l'impression de recevoir une caresse sur ses joues.
Tu sais ce que disait Bouddha ? La patience.
Elle termine la phrase à sa place.
Est la plus grande des prières, je sais.
Il se sourit avec complicité, chacun à un bout de la table.
Ce sera plus seulement nous deux, alors,
murmure doucement Joseph. Elle se sent émue. Elle acquiesce en baissant de nouveau les yeux vers son assiette.
Non, plus seulement.
Je suis heureux, Johan.
Un temps de silence passe. Un silence doux et léger meublé par le crépitement du feu dans la cheminée. Puis la voix de Joseph s'élève à nouveau.
Tu feras une formidable mère. J'ai hâte de rencontrer ton enfant. Je tâcherai moi aussi d'être patient.
Elle lui sourit faiblement.
Je suis heureux que tu veuilles l'élever ici, ajoute Joseph.
Elle se lève doucement et elle va le rejoindre de l'autre côté de la table. Elle ne dit rien. Elle se contente de poser la tête sur son épaule comme elle le faisait quand elle était gamine, et elle se laisse envelopper par ses bras massifs, par l'odeur musquée de ses chemises. Les guirlandes de Noël clignotent dans les ruelles de Saint-Suliac. Johan et Léon sont allés faire des courses pour la semaine. Joseph est très fatigué en ce moment. Il a même délaissé son potager et le poulailler qu'il a construit à la fin du mois de novembre. Les trois poules qu'il a accueillies se trouvent être de vraies fainéantes. Ils ont à peine récolté une dizaine d'œufs depuis qu'elles sont là. Joseph s'impatiente. Johan lui assure que c'est à cause du froid. Ils se pressent tous les deux dans les ruelles balayées par un froid glacial.
« On peut s'arrêter à la pharmacie ?»
demande Johan alors qu'il voit apparaître devant eux l'enseigne verte qui clignote. Léon la regarde étrangement, un sourire naissant au coin de ses lèvres.
Est-ce que...
Tiens, prends mon sac, j'en ai pour une minute.
Joanne, attends!
Il la retient par le bras et elle ne cherche même pas à résister. Il voit bien qu'elle essaie de masquer son sourire, elle aussi.
Dis-moi que c'est vrai,
chuchote-t-il d'une voix surexcitée. Elle le fait taire en posant une main sur sa bouche.
J'en sais rien du tout, je veux faire un test, justement.
Mais...
On verra après le test.
« Attends, Johan, attends !»
Il la maintient, ses deux mains dans les siennes. Il a abandonné les sacs de course par terre. Il chuchote tout bas avec une certaine agitation.
« Tu n'as pas eu tes règles, dernièrement ?»
Elle jette un coup d'œil aux alentours pour s'assurer qu'ils sont seuls dans la ruelle.
« Non. »«
Non ?»«
J'aurais dû les avoir il y a 3 semaines. »
Léon retient un cri et se met à applaudir en silence. Elle le fait taire d'un regard noir.
« Non, arrête! Je t'interdis de te réjouir tout de suite. On va acheter ce test avant. »
Il acquiesce docilement, mais son sourire ne disparaît pas pour autant.
« Dépêche-toi, »
dit-il en la poussant en avant. Ils ne prennent pas la peine de porter les courses jusqu'à la cuisine quand ils rentrent dans la maisonnette en pierre. Ils lancent tous les deux un « On est rentré !» à Joseph qui lit dans le salon et ils filent dans la salle de bain. Léon pousse Johan à l'intérieur.
« Dépêche-toi !»
Elle fait mine de s'offusquer, mais elle voit bien qu'il trépigne d'impatience.
« Tu ferais mieux de te calmer. Si c'est non, la déception va être grande. »
Mais il ne l'écoute pas. Il ferme la porte de la salle de bain et chuchote.
« Je t'attends ici !»
Lorsqu'elle rouvre la porte quelques minutes plus tard, elle n'a pas le temps de faire un pas dans le couloir que Léon est face à elle, à moins de 2 centimètres de son visage.
Alors ?
Il ne parvient pas à déceler quoi que ce soit sur le visage impassible de Johan. Rien à part un léger trouble. Et peut-être un tremblement au coin de sa lèvre. Est-ce qu'elle va pleurer ? Il fronce les sourcils.
Jo ?
Mais la lèvre tressaute et il s'aperçoit qu'il s'agit d'un sourire.
C'est oui ?
Murmure-t-il, suspendu à son souffle. Elle acquiesce et sourit tout à fait, cette fois, en posant un doigt sur ses lèvres pour lui faire signe d'être silencieux. Joseph est dans le salon à quelques pas de là. Ils ne peuvent pas lui annoncer, pas encore. C'est beaucoup trop tôt. Léon l'embrasse en trépignant sur place dans le couloir. Il la soulève, la repose, l'embrasse encore. Il rit derrière leur paume de main pour ne surtout pas faire de bruit. Ils ne garderont pas le secret très longtemps. Les fêtes de Noël sont passées, mais le vieux sapin est toujours là et les guirlandes clignotent. Joanne est recroquevillée dans le canapé, une bouillotte posée sur l'estomac. Elle a des nausées depuis ce matin. Elle ne peut rien avaler sans courir aux toilettes. Joseph a deviné ce qui se tramait.
« Ça y est ?»
a-t-il demandé en venant lui apporter un verre d'eau quelques heures plus tôt. Elle a été forcée de lui avouer.
« Je devrais pas l'annoncer déjà, c'est encore trop tôt. »
Ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle a encore un risque de le perdre. Tout à l'heure, Léon est rentré du travail et l'a trouvée dans le canapé, toute blanche.
« C'est normal ?»
a-t-il demandé tout bas à Joseph, tandis que Joanne contemplait les flammes en silence. Joseph a acquiescé en souriant.
« Oui, c'est normal. »
Maintenant, ils s'efforcent de dîner tous les deux, tandis que Joanne est restée recroquevillée dans le canapé. Léon a l'air anxieux.
« T'es sûr que tu veux pas un peu de purée ?»
demande-t-il en s'adressant au dos de Joanne.
« Sûr. »
Elle pose la bouillotte sur l'accoudoir du canapé et se lève.
« Où tu vas ?» demande Léon inquiet.
« Le plus loin possible de cette odeur. »«
Cette odeur ? Quelle odeur ?»
Joseph sourit de l'innocence de Léon.
« Elle va être sensible aux odeurs quelque temps, » indique-t-il. « Certaines vont lui aspirer un véritable dégoût. »«
Comme cette purée, »
ajoute Joanne avec une grimace. Joseph lui sourit avec compassion.
« Va t'allonger, on t'amènera ce qui te fera envie, d'accord ? Qu'est-ce que tu aimerais ?»
Elle réfléchit quelques secondes.
« De la compote de figues. »
Les deux s'empressent d'acquiescer.
« Très bien, tu auras ta compote de figues d'ici une demi-heure. »
Il la regarde s'éloigner vers la chambre. Léon semble mourir d'inquiétude.
« Ça va durer longtemps ?»« C'est possible. C'est assez fréquent les trois premiers mois. »
« Oh !» Après ça, Joanne entre dans sa chambre et elle n'entend plus ce qu'il raconte. Ça avait duré 2 mois entiers. Au début, elle avait refusé d'être arrêtée par le médecin et elle s'était efforcée de continuer les petits travaux dans l'école jusqu'à ce que Joseph tape du poing sur la table.
« Tu te reposes maintenant. Tu manges rien. Tu vas finir par faire un malaise. »
Léon avait chaudement remercié Joseph de l'initiative.
« Moi, elle m'écoute jamais. »
Mais alors, ça avait été long. Elle était fatiguée en permanence, et dès qu'elle se sentait plus en forme et qu'elle recommençait à manger, les nausées reprenaient. Elle passait ses journées à compter les heures. Lire lui donnait le tournis. Cuisiner lui donnait la nausée. Heureusement, il y avait la musique. Joseph mettait du Miles Davis, du Beethoven, un peu de Mozart.
« C'est très bon pour le développement neurologique de l'enfant, » disait-il.
Un soir, elle les avait trouvés en plein conciliabule dans la cuisine. Joseph revenait de la ville et il montrait à Léon un gros livre tout neuf.
« Ça pourrait rendre son début de grossesse plus amusant, » disait-il.
Et Léon, qui commençait à feuilleter le gros bouquin, avait approuvé vigoureusement. On lui avait parlé de ce livre le soir même. Le titre était « Rites et traditions chamanes autour de la grossesse des quatre coins du monde ». Joseph et Léon s'étaient assis dans le même canapé, le livre ouvert entre deux. Joseph avait annoncé
« On va te faire de la lecture !»
Il s'était mis à lire à tour de rôle, ponctuant les extraits de commentaires et l'incitant à donner son avis.
On retrouve deux croyances communes dans la plupart des ethnies du monde. La femme et son fœtus sont fragiles, car ils peuvent être agressés par les mauvais esprits. Afin de les en protéger, des rites de protection et d'interdiction doivent être mis en place. En Afrique, on fait prendre aux femmes enceintes des bains de kaolin.
Léon avait froncé les sourcils.
J'ai aucune idée de ce que c'est. Un peu partout dans le monde, on leur offre des objets de protection. Des talismans sont donnés par les sorciers en Afrique et au Vietnam contre le risque d'avortement. Au Sénégal, c'est une amulette avec un verset du Coran. Oh, et en Guyane, chez les Ndjuka, on leur offre des cordelettes qu'elles doivent porter autour du ventre. C'est un chaman qui doit leur offrir.
Joseph et Léon se prenaient au jeu encore davantage qu'elle.
Le métal serait une excellente protection au Guatemala et au Togo chez les Ewe.
Il protégerait des maléfices des sorciers et servirait de paratonnerre contre les mauvais esprits.
Léon s'était frappé le genou du plat de la main.
Oui, mais c'est ça, Joe. Il va falloir qu'on t'achète un bijou paratonnerre.
Voyant qu'elle avait un léger sourire, ils avaient continué leur lecture toute la soirée. Le lendemain, Léon lui ramenait un authentique talisman musulman trouvé chez un antiquaire de Saint-Suliac. Un autre soir, il avait été question de deviner le sexe du bébé à l'aide d'anciennes croyances. Léon et elle étaient dans la chambre dans l'obscurité. Ils avaient allumé quelques bougies et Léon était penché sur le livre acheté par Joseph.
Est-ce que t'as rêvé d'un ours ou d'un dragon dernièrement ? Avait demandé Léon.
Adossé à un gros coussin, Joanne avait secoué la tête.
Non.
Bon, avait fait Léon déçu. Et à une vache ?
Elle avait réfléchi, puis secoué de nouveau la tête.
Non plus.
Alors, peut-être une fleur ? Ou un soleil ?
Non.
Un bijou ?
Elle avait levé les yeux au ciel. Il avait eu une moue de déception.
Qu'est-ce que c'est censé signifier ?
Avait-elle interrogé en se redressant un peu.
En Corée, on prétend que si la future maman rêve d'un ours, d'un dragon ou d'une vache, alors elle attend un garçon. Si elle rêve d'une fleur, d'un bijou ou d'un soleil, alors ce sera une fille.
Il a peut-être pas encore décidé ?
Avait-elle conclu le plus sérieusement du monde.
On fait une pause ?
Lança le bain en reposant sur le sol perceuse et cheville.
Ok.
Elle le suit dans la petite annexe, puis dans la cuisine. Elle ne veut pas penser au fait que le camping-car n'est pas revenu. Albin s'active devant une casserole dans laquelle il a versé une conserve de petits légumes. Il lui tend le pain et le beurre.
Tiens, tu peux commencer. Ce sera bientôt chaud.
Elle n'a pas faim. Elle se sent encore nauséeuse. Elle s'efforce de vite retomber dans la profondeur de ses souvenirs, dans la chaleur de sa maison d'enfance à Saint-Suliac.